Radio France Internationale. Il est 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Édouard Dupénoit. À la une, Édouard, une très longue liste de reproches.
Oui, celle que dresse l'APR, l'ancien parti au pouvoir au Sénégal, qui explique par le menu pourquoi il ne participera pas au dialogue national qui s'ouvre en milieu de semaine prochaine. Mascarade, dit la formation aujourd'hui dans l'opposition. Ousmane Gawal Diallo, qui doit réintégrer l'UFDG. Victoire en justice pour le porte-parole du gouvernement guinéen de la transition. Il contestait son exclusion, mais l'UFDG ne l'entend pas ainsi et va faire appel de cette décision. Au Niger, le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers qui ressort libre de garde à vue, mais la colère demeure. Les chauffeurs demandent à tout le moins des mesures pour que le trajet qu'ils empruntent entre Dori et Terra soit sécurisé. Et cela après une nouvelle attaque dimanche dernier. 45 minutes face caméra, Joseph Kabila brise 6 ans de quasi-silence médiatique. L'ex-président de RDC dont l'immunité a été levée, il est passible de poursuites désormais, mais pour haute trahison et ses liens suspectés avec la FCM23.
RFI à Cannes pour encore quelques heures.
Avec le décès hier de Mohamed Lardar Amina, 50 ans jour pour jour après qu'il avait reçu la Palme d'Or pour sa chronique des années de braise. Le palmarès de ce festival du film, c'est ce soir. Édition spéciale aussi sur nos antennes. L'ancien parti au pouvoir au Sénégal ne sait plus par quel grief commencer pour critiquer le dialogue national. La formation de l'ex-président Macky Sall, l'APR, premier parti d'opposition, fait savoir qu'elle ne participera pas à ces rencontres annuelles qui s'ouvrent mercredi prochain. Médiateur trop orienté, ordre du jour trop secondaire, mépris des invités, la liste des reproches, Léa Lisa Westerhoff, est déjà longue.
Pour le parti de Macky Sall, le dialogue est dénué de sincérité et servira à entériner des décisions déjà arrêtées, explique l'APR dans un communiqué. Le choix de Cherguey comme facilitateur du dialogue est également critiqué par l'APR. Qualifié de sympathisant assumé du PASTEF, il ne serait pas assez neutre. Le parti dénonce également un certain mépris des autorités avec la réception tardive de la lettre d'invitation à ce dialogue. Pour dialoguer, il faut se respecter, fustige ainsi l'avocat et membre de l'APR, Oumar Youm, qui dénonce la série d'inculpations visant 4 anciens ministres et membres de l'APR et un climat délétère où l'opposition et l'ancien président Macky Sall sont qualifiés de tous les sobriquets. Enfin, pour l'Alliance pour la République, la réforme du code électoral et du processus électoral qui seront abordés la semaine prochaine ne sont pas des sujets prioritaires. Ils auraient pu être débattus à l'Assemblée nationale plutôt que lors de grandes concertations, estime un cadre du parti. La situation économique du Sénégal et le repli de l'activité économique auraient été beaucoup plus urgents et intéressants à aborder, estime encore le juriste Oumar Youm. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Eux ont en revanche déjà confirmé leur venue pour ce dialogue national. Ainsi, l'archevêque de Dakar, Mgr André Gueye, fait savoir qu'il sera présent, ainsi que plusieurs autres partis de l'opposition comme l'ARC d'Anta Babacar Nghom.
De nouveaux soubresauts judiciaires pour l'UFDG en Guinée.
Oui, la formation de Sélou d'Alain Diallo qui n'en finit plus de compter ses divisions internes. Le tribunal de première instance de Dixine vient d'ordonner la réintégration dans les rangs du parti d'Ousmane Gawal Diallo, l'actuel porte-parole du gouvernement de transition. C'est justement en rejoignant les nouvelles autorités qu'il avait été exclu de l'UFDG il y a 3 ans. Il contestait cette exclusion en justice, qui lui donne donc raison, mais en guibillant, l'UFDG va faire appel.
Si Ousmane Gawal Diallo salue la décision du tribunal du Dixine, du côté des fidèles à Sélou d'Alain Diallo, on parle d'acharnement politico-judiciaire contre le parti et on estime la justice instrumentalisée par le CNRD. L'UFDG va contester la décision de réintégration d'Ousmane Gawal et interjettera appel ces prochains jours, précise un cadre du parti. Et selon ce même responsable, l'UFDG envisage d'organiser son congrès au mois de juillet à Conakry. Un congrès auquel Ousmane Gawal Diallo a l'intention de participer pour briguer la présidence de la formation. Mais avant le congrès, il demande des préalables, la réintégration de certains cadres fédéraux relevés de leurs fonctions. Sinon, prévient-il, il attaquera de nouveau le parti en justice. Dans une vidéo devenue virale sur Internet, on voyait l'un de ses secrétaires fédéraux remercier Mamadi Doumbouya pour lui avoir fait don d'un pick-up. Reste à savoir maintenant si l'UFDG pourra organiser son congrès, si la formation fait appel et que l'affaire fait son retour devant les tribunaux. Tanguy Bihan, Conakry, RFI.
Un haut représentant des Nations Unies termine aujourd'hui 3 jours de visite au Burkina Faso. Leonardo Santos Simão, représentant spécial d'Antonio Guterres pour l'Afrique de l'Ouest et pour le Sahel. Il s'est entretenu avec Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, l'actuel chef du gouvernement de transition et plusieurs autres personnalités politiques, en saluant les efforts du Burkina en matière de développement économique, de développement agricole, mais aussi pour le retour des populations déplacées par la violence terroriste. Alexis Guilleux, une rencontre fort conciliante.
La rencontre était principalement axée sur la situation sécuritaire. Le terrorisme qui frappe le Burkina Faso utilise des moyens de plus en plus sophistiqués, parfois même des enfants, s'est indigné Leonardo Santos Simão lors de cet entretien avec le Premier ministre burkinabé. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a lui demandé aux Nations Unies d'avoir le courage de porter le message des nations en lutte pour leur souveraineté. Sur un ton plus accusateur, le chef du gouvernement burkinabé a demandé à l'ONU de ne plus rester silencieuse face au parrainage du terrorisme dans le Sahel par certains pays dits puissants. Il a également dénoncé certaines structures internationales qui, selon lui, utilisent des termes qui légitiment l'action des terroristes. Face à l'évolution préoccupante de la menace dans le pays et la région, Leonardo Santos Simão a reconnu la nécessité de continuer à mobiliser les efforts dans la lutte antiterroriste. Le système des Nations Unies va continuer son plaidoyer, a voulu rassurer le représentant spécial, pour mobiliser et augmenter le soutien au Burkina Faso dès que possible.
Alexis Guilleux, il est 6h36 à Ouagadougou.
Entre le Burkina Faso et le Niger, cette fois un axe semé d'embûches et la colère des transporteurs routiers.
Le secrétaire général de l'UTAN, l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger, est sorti libre hier de garde à vue. Gamatier Mahamoudou Yansambou, qui avait été convoqué en début de semaine après justement la publication d'un communiqué de son syndicat. Le texte dénonçait l'attaque d'un convoi sur l'axe Dori-Tera, route dangereuse que les routiers doivent emprunter, faute de pouvoir passer par le Bénin, avec qui le Niger maintient sa frontière fermée. L'UTAN interpelle la transition nigérienne sur le sujet, Magali Lagrange.
Une énième tragédie en fin de semaine dernière sur l'axe Dori-Tera. Cette attaque contre un convoi de ravitaillement a coûté la vie à 3 conducteurs. Plusieurs autres ont été blessés par balles, dénonce l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger dans son communiqué. On perd des camarades, des amis, confie une source proche du syndicat qui énumère les nombreuses difficultés des conducteurs routiers sur cet axe dangereux via le Burkina Faso. Le trajet est long, plusieurs mois sans voir la famille, en n'étant pas certain de rentrer en bonne santé, des temps d'attente sans commodité, exposés au soleil, ce qui ajoute au stress et à la fatigue. Les camions sont parfois brûlés, ce qui entraîne des complications avec les banques et les assureurs. Le syndicat interpelle les autorités nigériennes. L'UTAN demande d'urgence des mesures pour sécuriser les axes sensibles, surtout ceux que les convois de ravitaillement empruntent régulièrement. Il y a 6 mois, il avait déjà dénoncé des attaques contre des routiers et plaidait alors pour la réouverture de la frontière avec le Bénin, une route plus courte et plus sûre jusqu'au port de Cotonou.
À Magali Lagrange, un mot encore du Niger où les autorités de transition continuent de chercher la bonne formule face aux sociétés chinoises du secteur pétrolier. Cela fait déjà plusieurs semaines que le ministre du pétrole multiplie les courriers à leur encontre. Sahabi Oumarou leur reproche de s'affranchir des règles en vigueur. Il souhaite que les employés expatriés de ces sociétés aient quitté le territoire dans les jours qui viennent, en cherchant aussi à ne pas trop braquer ce premier partenaire commercial que reste la Chine. Vous en lisez les détails sur RFI.fr. Joseph Kabila n'a attendu que quelques heures avant d'enclencher sa riposte médiatique. Au lendemain de la levée de son immunité parlementaire, l'ancien président de République démocratique du Congo a publié sur le net une longue allocution de 3 quarts d'heure pour dénoncer ce qu'il considère être une justice instrumentalisée. Justice qui entend le poursuivre désormais pour haute trahison et ses liens suspectés avec la FCM-23, le groupe armé soutenu par le Rwanda qui contrôle de larges parties des 2 provinces des Kivu. Comme il y a un mois, l'ex-président fait savoir qu'il se rendra à Goma, capitale du Nord Kivu, je cite, dans les prochains jours. Paulina Zidis, cela fait des années que l'ex-président ne s'était pas aussi longuement exprimé.
6 ans qu'il ne s'était pas directement adressé aux Congolais. 6 ans de prise de parole au compte-goutte au travers de quelques interviews, de micros tendus et de paroles rapportées par ses proches. Joseph Kabila dit briser ce long silence parce que l'enjeu est de taille, non pas pour ma famille, encore moins pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise. Fin de citation. Un long discours où il dresse un bilan sans concession de la gouvernance de son successeur, sans pour autant le nommer, Félix Tshisekedi. Il évoque un pays gravement malade, devenu un espace de non-droit, un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion. La dictature doit prendre fin, estime l'ancien président, et d'avancer 12 points clés, parmi lesquels arrêter la guerre, neutraliser tous les groupes armés, rétablir les libertés fondamentales, réconcilier les Congolais. Chacun doit jouer sa partition, je m'engage à jouer la mienne, conclut-il, sans donner plus de détails, laissant souffler le chaud et le froid. Il se dit à la fois militaire prêt au sacrifice suprême, tout en affirmant son engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Entre le Cameroun et les États-Unis maintenant, on a appris que Eric Tanotato s'était rendu aux autorités américaines après avoir été mis en accusation par un jury fédéral de Baltimore. Il est un ressortissant camerounais de 38 ans. Installé donc dans l'état du Maryland, il est accusé de complot en vue de fournir un soutien matériel à des groupes séparatistes armés anglophones, mais aussi d'avoir proféré des menaces visant à blesser ou à kidnapper des civils camerounais.
Le dossier de ce journal au Festival du film de Cannes, qui se termine ce soir, mais qui s'est retrouvé hier brutalement et cruellement endeuillé.
Oui, puisque l'on a appris la mort de Mohamed Lardar Amina, le jour même où était projetée sa chronique des années de braise, 50 ans tout juste après qu'il avait reçu la Palme d'Or. Le cinéaste algérien demeure le seul réalisateur africain à avoir remporté cette plus prestigieuse des récompenses. La projection de son œuvre en présence d'une partie de sa famille s'est tenue quelques heures avant l'annonce de son décès. Ouday Ibrahim, envoyé spécial de RFI, en profitait alors pour s'entretenir avec l'un de ses fils, Malik.
C'est une palme d'or qui lui a ramené énormément de reconnaissance à travers le monde. Et il en a bien profité de sa palme d'or. Il a su vraiment la gérer. Par contre, il n'a pas assez fait de films, je pense. Il le dit, il est feignant. Pourquoi il n'a pas fait de films? Parce qu'il a aussi, je dirais, fait un peu de politique. Il a eu une vie politique, il est dans un système socialiste un peu à la façon soviétique à l'époque, avec qui il n'était pas d'accord, mais lui, il préférait être dans le système. Il m'a toujours dit « je ne compte pas le système » en étant dans le système.
Un entretien enregistré donc quelques heures avant l'annonce du décès de Mohamed Lardar Amina. Dernières heures donc sur la croisette, avant les ultimes crépitements des flashs et les forêts de micros et de caméras, puisque le festival du film, ce sont aussi 4000 journalistes qui couvrent la compétition. Parmi eux, dans cette foule, David Hervé Onla, fondateur du site culturel burkinabé Oxygène Mag, que Sophie Torlotin a rencontré.
Ils sont peu nombreux à Cannes, les journalistes du continent, et encore plus rares, ceux qui sont invités par le Festival de Cannes.
Le journaliste qui se déplace tous les ans depuis 5 ans, à partir du Burkina Faso, c'est moi seul.
Le Camerounais David Hervé Onla, installé au Burkina Faso avec son site culturel en ligne Oxygène Mag.
J'ai rencontré un confrère ivoirien qui est là, c'est vraiment peu, parce qu'ils se disent que c'est peut-être coûteux, et puis quand ils viennent, ils s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est africain. Mais nous, ce qui fait un peu la patriotique, moi je viens, c'est pas seulement le cinéma africain qui m'intéresse, moi je suis venu couvrir l'événement, le Festival de Cannes en général.
Et ce choix généraliste, visiblement, plaît aux internautes.
Ils connaissent déjà tous ceux qui viennent d'Afrique, ce qui les intéresse, moi j'ai remarqué. Et surtout les off, la plage, comment est-ce que les artistes viennent sur le tapis rouge, le red carpet, un reportage sur un film que j'ai vu de Spike Lee par exemple, ils ont aimé.
David Hervé Onla voit également les films en compétition pour la Palme d'Or et l'un de ses 22 longs métrages l'a remué.
J'ai beaucoup aimé Sirat. C'est vrai que la fin, elle est un peu triste, mais c'est ça aussi le cinéma. Depuis que je viens à Cannes, il y a des films où à la fin, tu es vraiment déçu. Mais c'est ça qui remporte la Palme d'Or. Et beaucoup au Burkina, en Afrique, on ne connaît pas ça.
Verdict ce soir pour Sirat et les autres longs-métrages en compétition du 78e Festival de Cannes. Sophie Torlotin, Victor Hull, Cannes, RFI.
Et si vous préférez les surfaces de réparation aux salles obscures, il y a du foot aussi cet après-midi, puisque c'est la finale aller de la Ligue des Champions africaine. Entre les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns et les Égyptiens de Pyramids. Coup d'envoi à 13h, temps universel. Toute l'actualité sportive revient dans une heure et c'est avec Victor Missistrano. Pour l'heure, à Paris et sur la radio du monde, il est 8h44.
Et c'était le journal d'Edouard Dupénoit. Merci Edouard.